dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, bonsoir. En 2004, avec Kif Kif Demain, elle faisait une entrée fracassante dans le petit monde de la littérature. Du jour au lendemain, en publiant ce premier roman plein d'humour et d'énergie, Faiz Again est devenue une voix des enfants des quartiers populaires. Le roman a été traduit en 26 langues. Depuis, elle en a écrit quelques autres. Du rêve pour les oufs, Les gens du Balto, Un homme ça ne pleure pas, ou encore Millennium Blues. Et la voici de retour avec une histoire de famille, une histoire intime qui s'inscrit dans deux récits nationaux, celui de la France et celui de l'Algérie, une histoire fragmentée, celle de trois générations d'immigrés marquées par le souvenir de la colonisation, par la guerre, par l'exil, un récit parsemé de toutes ces petites choses de la vie quotidienne qui distancent sur les origines et la difficulté de se sentir pleinement intégré et accepté, une mémoire en morceaux donc, car comme elle l'écrit, les vies de ces personnages se sont discrètement éparpillées dans la poussière. La discrétion, le nouveau roman de Faiz Again est paru aux éditions Plomb, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Faiz Again.
Bonjour.
Le personnage central du roman, c'est Yamina. Yamina, c'est une femme simple, une femme honnête. Elle court sur ses 70 ans. Elle vit à Aubervilliers, dans la banlieue nord-est de Paris. Elle a un mari qui s'appelle Brahim. Elle a aussi 4 enfants, 3 filles et un garçon qu'elle aime profondément. On sent qu'elle a souffert, on sent qu'elle a éprouvé la dureté de l'existence, mais elle ne se plaint pas, elle ne se met jamais en colère. Elle supporte sans barguigner la condescendance et les humiliations. Elle ne se rebelle jamais. Et c'est donc cette attitude que vous avez appelée la discrétion. Comment est-ce que ce mot s'est imposé ?
Alors ce mot discrétion, il s'est imposé à moi en disant un texte à la radio il y a 2 ans. J'avais écrit un texte pour une carte blanche et je parlais d'une femme déjà qui était une femme exilée de cet âge-là, de cette génération. Et je racontais qu'elle allait enterrer son mari en Algérie après une vie pénible, etc. Et que finalement ça se terminait comme ça, qu'elle allait être enterrée sur ses terres et que cet homme finalement a été mort de discrétion. Et en fait quand j'ai dit mort de discrétion, il s'est passé quelque chose pour moi et je pense que c'est à ce moment-là que l'idée de ce roman a germé, mais finalement c'est un roman que je porte depuis très longtemps.
La discrétion, c'est ce qui permet à Yamina, sinon d'être heureuse, du moins de ne pas être malheureuse.
Moi je le raconte comme une stratégie de survie finalement, parce que d'abord pour elle, pour continuer à vivre cette existence, peut-être par peur d'une certaine façon, parce que on comprend quand on parcourt un peu le roman et que je raconte l'enfance de Yamina en Algérie colonisée, ce qu'elle a traversé, on sent aussi que la discrétion, les rester invisible, c'est un moyen de survie, et c'est aussi une façon pour elle de protéger ses enfants, de ne pas leur transmettre de colère, et donc rester discret, c'est le meilleur moyen pour elle de ne pas rendre les choses plus incandescentes.
Peut-on dire que Yamina est résignée ?
Justement, non. Dans ce roman, ce que je veux montrer, c'est que derrière cette image, moi pour moi c'est une façade, hein, cette image de femme résignée, de femme docile, dont on pourrait imaginer qu'elle est faible, en réalité c'est une force. Donc c'est pas de la résignation, je dirais plutôt que c'est de la dignité. Et que c'est de la force.
Il aurait pu s'appeler La Dignité, ce roman aussi.
Ah oui, tout à fait. Ça aurait pu s'appeler La Dignité, mais c'est vrai que ce que je voulais un peu dérouler comme fil, c'était comment cette femme qui a mené cette existence a finalement été tenue au silence.
Alors c'est vrai que quand on lui parle mal, hein, lors des formalités administratives par exemple, elle ne réagit pas. Il y a notamment une scène très intéressante qui est plutôt au début du roman, hein, qui se passe à Bobigny, à la préfecture du département de Seine-Saint-Denis, donc en banlieue parisienne, et vous vous placez non pas du côté de Yamina, mais juste pour quelques paragraphes, hein, vous vous placez du côté de l'employé qui s'appelle Fabienne, employé de préfecture et qui, comme tout le monde, a des soucis, elle se sent fragile, déconsidérée, elle est un peu au bout du rouleau, hein, lorsque Yamina entre dans son bureau. Alors elle se défoule, c'est un peu une habitude, elle se défoule un peu sur tous ceux qui font la queue à son guichet. Pourquoi, en l'espace de quelques paragraphes seulement, hein, Faiz Again, vous avez tenu à vous mettre du côté de Fabienne, à vous mettre à la place de cet employé de préfecture?
Mais ce qui est formidable, c'est que c'est la littérature qui permet ça, c'est de faire ce glissement et d'aller vers l'autre et d'essayer de comprendre dans quelle considération il est. Et peut-être d'essayer de comprendre derrière cette condescendance et ce mépris qu'elle a à l'égard de Yamina, ce qui se cache, parce que ce que je dis, c'est que cette femme, à ce moment-là, dans cette rencontre, elle, il y a quelque chose qui lui échappe et elle a l'impression d'aller vers l'autre, alors que même qu'elle est en train de se montrer méprisante.
Mais ça va loin quand même dans le vocabulaire qu'on parle, parce que vous utilisez finalement le style indirect libre, c'est-à-dire que on entre vraiment à l'intérieur des pensées du personnage de Fabienne, et vous écrivez, je cite, elle en a marre de ce défilé de races, de dialectes, de figures amochées, d'histoires intimes qu'elle n'a pas envie d'entendre.
Oui, parce que finalement c'est une femme qui a ses limites. Et je le dis, en plus, je le raconte, je me mets dans sa peau un peu sans jugement aucun. C'est juste qu'elle n'est pas armée, en fait. Cette femme, elle n'est pas outillée pour comprendre la complexité des situations, parfois, auxquelles elle fait face.
On est un peu dans la doxa, quoi. Avec eux, pense-t-elle, c'est toujours pareil, ils sont jamais contents. Donc, toujours ce côté, cette généralisation. Et pourtant, elle, c'est pas une femme antipathique, cette Fabienne, quoi. Non, c'est ça le tour de force du roman.
Ce qui est intéressant, c'est, ce que je dis de la littérature, c'est aussi qu'il n'y a pas les méchants et les gentils. La vie, c'est pas comme ça. Et, dans ces situations-là, il ne faut pas être manichéen, je pense, pour les raconter.
Et alors, donc, je le disais, Yamina ne réagit pas. C'est sa seconde fille, qui s'appelle Anna, qui l'accompagne et qui, elle, va réagir. Elle n'est pas débile, c'est pas la peine de lui parler comme ça, s'insurge-t-elle. Je cite toujours, et là, c'est vous qui écrivez, Anna prend feu, elle est véritablement en combustion. Elle s'embraserait pour défendre l'honneur de sa mère. Anna, c'est la révoltée de la famille, c'est celle qui exprime le plus de colère, Faizagen, que Yamina tente un peu de calmer. Par exemple, dans cette autre scène, alors là, on est beaucoup plus tard dans le roman, page 133.
Yamina, qui est pourtant de nature optimiste, qui ne voit le mal nulle part, sent bien, et c'est regrettable, que l'atmosphère change. Différente des années 80, quand elle était en pleine trentaine, que ses enfants étaient petits, que les institutrices de l'école lui demandaient avec bienveillance de traduire les autres mamans. Peut-être que les choses étaient simplement moins flagrantes. Yamina a tendance à embellir ses souvenirs. Yamina sent que, aujourd'hui, on ne peut plus tellement dire qui on est. Qui on est devenu trop risqué. Elle s'inquiète pour ses enfants, pour tous les enfants dans leur genre. Elle demande à Omar de couper la télévision quand il met la chaîne d'information en continu. Ça la rend malade. D'ailleurs, par principe, elle refuse de prononcer le nom des éditorialistes et autres polémistes islamophobes à qui on donne la parole pour beugler leur haine, la bave aux lèvres. Elle préfère leur attribuer des sobriquets tels que Wajh el Kalb, figure de chien, Raouj el Fem, bouche tordue, ou encore Sem el Alam, venin du monde. Elle les appelle comme ça, et les enfants rient. Ils adorent. Ça dédramatise un peu la situation. On en oublierait presque la violence des mots qu'on vient d'entendre. Yamina dit calmement à ses gosses, auxquels on essaie d'enlever toute légitimité, « Je ne sais pas pourquoi vous vous énervez comme ça. Moi, je m'en fiche. Même s'ils veulent m'arracher mon foulard, ils n'arriveront jamais à arracher mon cœur. Et dommage pour eux, ma foi est dedans. » La voisine écoute probablement les discours de figures de chien, bouche tordue et venin du monde, elle aussi. Et Hannah n'a pas la patience de Yamina. Le ton sec, elle lui dit simplement « Tenez votre chien là, s'il vous plaît. Je veux pas qu'il s'approche de moi. » Elle dit à ses sœurs « Ils sont chiants. Depuis le temps qu'on est là, on a bien appris à vivre avec eux. Pourquoi c'est toujours à nous de faire les efforts ? C'est bon maintenant, chacun son tour. Je suis pas là pour les rassurer. S'ils sont trop cons pour pas se rendre compte qu'on est des êtres humains, c'est pas de ma faute. Eux et nous, des fois on dirait une greffe d'organes qui prend pas. » Yamina croit apaiser sa fille en lui répondant « C'est comme ça, Benti. On doit accepter. On est comme leur invité. On est chez eux. » Ça fout Hannah à bout, ce genre de discours. « Non, on n'est pas chez eux, maman. On n'est pas des invités. T'as reçu un carton d'invitation, toi ? Moi, non. Ça suffit. Ça fait 35 ans que j'entends ça. Nous, on est chez nous. On est nés ici. Et si on est arrivé là, c'est pas par pure coïncidence. » Au train où vont les choses pour eux dans ce pays, Hannah n'a pas de mal à imaginer que, un jour, c'est son arabe qu'il faudra mettre en laisse et que, s'il ne se tient pas suffisamment à distance, quelqu'un se fera obligé de dire « Il va pas vous manger, n'ayez pas peur. Il est gentil. Hein, Karim, que t'es gentil. C'est un gentil arabe, ça, hein ? Gentil arabe à sa mémère. » Yamina la supplie constamment de ne pas faire de scandale. Malgré sa grande gueule, Hannah est une fille obéissante. Sinon, il y a belle lurette qu'elle aurait foutu un gros coup de pompe au chien de la voisine.
Il est Très instructif, très riche ce passage, Faïza Guen. On pourrait presque faire une émission complète dessus pendant des heures et des heures sur une de ces chaînes d'information continue que vous épinglez au passage. D'abord parce qu'on est en plein dans l'atmosphère de la société française actuellement. Et il y a d'ailleurs cette phrase terrible, aujourd'hui on ne peut plus tellement dire qui on est. C'est ce que vous ressentez au plus profond de vous-même ?
J'ai le sentiment que c'est plus compliqué en tout cas de dire qui on est, c'est-à-dire sans se sentir à l'écart. Sans avoir le sentiment d'être dans la division, parce que j'ai le sentiment que voilà, le climat malheureusement produit ça. Et l'idée en plus dans le roman tout le long, c'est d'essayer de comprendre, de raconter, d'inscrire voilà un récit d'un point de vue différent de ce qu'on entend dans le récit général, et de se mettre en fait dans la peau de ces gens finalement qui sont complexes et à qui on refuse cette forme de complexité, c'est-à-dire que les enfants, en tout cas de Yamina, qui sont eux des citoyens français, considèrent qu'ils peuvent vivre de manière sereine avec les autres, tout en assumant qui ils sont, et sans devoir se partager leur identité, de la mettre en morceaux, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que le climat en France actuellement est malsain ?
Je veux pas dire malsain, parce que je pense quand même que on a la chance d'avoir aussi des voix qui s'élèvent pour aller à l'encontre de cette espèce de mode un peu dur qui consiste à mettre les gens chacun dans une case, et qu'il y a quand même des gens qui vont vers quelque chose de plus pacifique. Donc je dirais pas malsain non plus, mais je dirais qu'on laisse la parole beaucoup aux gens qui essayent de séparer
et qui mettent de l'huile sur le feu.
Ouais, absolument.
Il y a quelques jours, Faïza Guen, il y a eu un attentat devant le siège de l'ancien siège de Charlie Hebdo. Est-ce que, comme vous le dites dans le roman, vous vous êtes dit, comme l'un de vos personnages, à chaque fois qu'il y a un attentat, on se dit, on prie pour que ce soit pas un arabe. Vous vous êtes dit ça ?
D'abord, je me suis d'abord dit, j'espère qu'il n'y a pas de mort. C'est la première chose que je me suis dite. Et ce que j'écris dans le roman, en fait, c'est toujours un peu la même chose. C'est que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles, beaucoup de gens, beaucoup de citoyens français qui, je pense, se joindraient à moi pour répondre ça et dire on aimerait simplement, juste, dans ces moments-là aussi, appartenir et pas être mis de côté. C'est ce que je raconte dans ce passage du roman.
C'est-à-dire être français exactement comme les autres sans qu'on ait à se poser de questions.
C'est-à-dire que le deuil qu'on peut faire à ces moments-là, qui sont des moments très difficiles, c'est un deuil qu'on devrait vouloir être un deuil collectif. Et on a le sentiment de se voir confisquer ce deuil quand on est stigmatisé à ce moment-là.
Alors, à vous entendre, on a plutôt l'impression que vous êtes un petit peu comme Anna. Vous êtes plus proche d'Anna que de Yamina, Faïza Guen. D'ailleurs, vous avez le même âge. Hein,
ouais.
Vous êtes complètement de la même génération avec Anna. Et pourtant, si vous épousez la façon de voir les choses d'Anna, vous écrivez peut-être plus comme Yamina. Non, il y a beaucoup de douceur finalement dans votre écriture,
ouais,
même si ce que vous racontez est terrible.
Si je dois être honnête, je me sens proche d'Anna dans son indignation, mais à la fois je me sens proche de chacun d'entre eux. En fait, c'est ça aussi qui est une merveille quand on écrit des personnages, c'est qu'on peut se, alors pour le coup, morceler un peu. J'ai l'impression d'avoir un bout de moi dans chacun d'eux vraiment, et de pouvoir l'exprimer à travers leurs yeux, quoi.
Mais
c'est vrai que la douceur et la tendresse, pour moi, c'est quelque chose de très important, comme l'humour, comme cette légèreté-là, parce que pour raconter certaines choses, certains pans de l'histoire, par exemple, il faut du recul, et ça m'aide d'avoir de la tendresse pour eux.
Oui, alors l'histoire, elle est évidemment au cœur du récit. Donc il y a l'histoire qui a été vécue par Yamina, puisque donc il y a des allers-retours en arrière, du côté de sa jeunesse. On va y revenir longuement dans un instant. Et puis il y a aussi l'histoire qui n'est pas dite, l'histoire qui est tue, l'histoire qui est un petit peu cachée au sein de la famille. Parce que Anna, revenons à ce personnage-là, Anna qui est en colère, eh ben elle est en colère aussi parce qu'elle porte en elle le poids de la colonisation. Vous écrivez, il y a tellement de rage coincée dans sa gorge que ça lui laisse un goût aigre.
Parce que Anna, elle n'a pas la possibilité de s'expliquer cette rage. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que ce qu'a produit le silence de la génération des parents, ce sont les hurlements des enfants, finalement. Et toute cette colère qui a été réprimée, finalement, ce que je dis dans le livre, c'est qu'elle se transmet l'air de rien. Même si on veut en protéger les enfants, même si on veut, même si en tentant d'oublier le passé, on pense leur rendre service. Moi, je pense au contraire que la reconnaissance et raconter ces histoires et inscrire ces récits dans l'histoire, ça va contribuer à les mettre en paix.
Dans Vous m'en direz des nouvelles sur RFI avec Faiz Aghen pour son roman La Discrétion paru chez Plomb. Alors Minji Balina, chant patriotique algérien, repris ici par Linda Blues. Vous en reproduisez d'ailleurs hein, les paroles dans le livre Faiz Aghen, paroles de Mahmoud Stambouli, un chant qui a accompagné la jeunesse de Yamina.
Oui, absolument. Bon, c'est un chant patriotique très célèbre et j'avais envie de traduire les paroles. Aussi pour raconter dans quel environnement Yamina est devenue une jeune femme. Elle est devenue une jeune femme dans cet environnement de résistance. Et je pense que ça fait partie des choses aussi qu'elle a transmises à ses enfants. Et c'était important pour moi d'insister sur les paroles, de leur donner une valeur, quoi, de les mettre en valeur.
Ouais, et son héroïne, Jamila, elle s'appelle Jamila, ouais. Jamila Bouhired, militante historique du FLN, qui est l'une des dédicataires de votre livre. D'ailleurs, pour quelle raison?
Parce que c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée. Justement, parce que, à mes yeux, c'est une figure de dignité. Et voilà, c'est une femme aussi, donc c'est des profils dont on n'a jamais entendu parler. Moi, quand j'ai étudié la guerre d'Algérie à l'école, évidemment, on l'étudie d'un certain point de vue, d'un certain côté, et si on n'a pas de soi-même envie de comprendre, envie de savoir qui étaient ces figures, c'est difficile d'avoir accès à cette histoire-là. Et moi, quand j'ai découvert l'histoire de Jamila Bouhired, j'étais vraiment, vraiment bouleversée par cette femme, et par sa dignité justement et cette force qu'elle avait alors qu'elle avait à peine 19 ans quand elle était accusée et condamnée à mort devant le tribunal militaire colonial. C'est quelque chose qui rend je sais pas comment dire, en tout cas c'est une figure vraiment de femme qui m'a beaucoup beaucoup inspirée.
Ouais, et qui deviendra un peu plus tard l'épouse de l'avocat français Jacques Vergès. Alors évidemment la guerre d'Algérie est un point d'orgue de la vie de Yamina, on le disait, elle porte évidemment tout cela en elle et c'est l'occasion de son premier exil, si j'ose dire, Faiz Aghen, parce que pendant que son père est au combat, le reste de la famille va s'installer au Maroc et du jour au lendemain, la fillette quitte son jardin et son figuier, et cet arrachement-là, elle a 7 ans, hein, je crois. À ce moment-là, elle a à peu près 7 ans. Et ben, c'est la fin de son enfance, quoi. Ouais. D'un coup, elle devient adulte, brutalement.
D'ailleurs, son enfance, finalement, elle a cessé à peine après avoir commencé. Je raconte une scène où, avant de quitter l'Algérie, ils sont dans la Mechta avec la famille, et il y a des soldats français qui font irruption dans cette Mechta, dont un jeune soldat qui pointe son arme sur le front du bébé, qui est le petit frère de Yamina, qui est dans les bras du grand-père. Et c'est à ce moment-là, à cet instant-là, que son enfant cesse finalement. Et l'exil au Maroc, c'est le premier exil, parce que pour raconter l'exil après vers la France, il faut comprendre que déjà, il y a quelque chose qui est ancré chez elle, que déjà, quand il s'installe au Maroc avec sa famille, on lui demande de se taire, qu'elle comprend que rester invisible, c'est important pour survivre.
La discrétion.
Et cette discrétion, en fait, elle apparaît à ce moment-là, en effet.
Et donc, retour d'exil, 7 ans plus tard, retour donc à la maison, en Algérie. Ce qu'elle remarque tout de suite, c'est que le figuier est mort.
Ouais. Alors, donc le figuier qui symbolise évidemment l'enracinement et l'attachement à la terre, elle revient, le figuier est sec. Et pour moi, c'était une manière de montrer tout ce que les Algériens qui ont dû quitter leur terre, qui ont été dépossédés, ont perdu. Donc le retour n'a pas été si glorieux qu'ils l'imaginaient pour beaucoup d'entre eux. Et là, c'était à travers les yeux d'Amina, et qui était encore une jeune fille.
Oui, d'autant qu'il y a aussi les difficultés financières de la famille. C'est pas facile de refaire redémarrer. Ce nouveau départ est quand même extrêmement, extrêmement douloureux. Et c'est donc une forme de seconde naissance, en quelque sorte, hein, pour le personnage de Yamina. Et c'est aussi, en quelque sorte, la naissance d'une rebelle. Parce qu'elle va commettre un acte absolument incroyable dans l'intimité de sa famille. Pourquoi est-ce qu'elle se cabre à ce sujet ?
Ça me plaisait aussi, vous savez, à la naissance du roman, ça me plaisait d'imaginer que derrière cette figure de mère de 70 ans, un peu effacée, etc.
Qui a l'air de tout accepter.
Qui a l'air de tout accepter. Je voulais aller creuser pour aller chercher là où elle était animée. Et donc, bon, ça n'arrive qu'une fois dans le roman, mais je dis, c'est le seul et unique acte de désobéissance de Yamina.
Alors, c'est un acte très intime, je sais pas si vous souhaitez qu'on révèle de quoi il s'agit, mais c'est quelque chose de très intime, de très personnel, qui la concerne elle, qui concerne son corps, et à un certain moment, elle dit stop, quoi.
Elle dit non, on peut très bien le raconter sans déflorer le roman. En fait, c'est une scène où il y a ce qu'on appelle les vieilles mères qui faisaient les tatouages traditionnels, les tatouages berbères, qui passaient dans les villages pour donc tatouer les jeunes filles. Et là, elle décide, mais comme sur un coup de tête, sans y réfléchir, sans avoir prémédité son refus, elle quitte la Mechta par l'arrière et elle part en courant et elle refuse de se faire tatouer. Et pour elle, c'est une manière, elle qui a tout perdu, son enfance, tout ce que la guerre a pu leur enlever, elle décide de garder sa figure intacte. Et pour elle, c'est un acte vraiment fort en tant que femme, justement.
Le front de Yamina lui appartient, c'est son front de libération personnelle. Ouais. Donc le lien tout de suite, hein, entre l'histoire et l'intime. Et vous concluez, Faizagen, elle gardera son front libre jusqu'à la tombe.
Paraît que le pouvoir s'achète. Liberté, c'est tout ce qui nous reste. Si le scénario se répète, on sera acteur de la paix. Passé tout noir. Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas. là-bas. J'écris ça un soir pour un nouveau matin. Oui, j'écris pour y croire. L'avenir est incertain. Oui, j'écris car nous sommes main dans la main. Moi, j'écris car nous sommes la génération dorée. La liberté.
Liberté, Soul King featuring Ouled El Barjad dans VMDN sur RFI avec la romancière Faiz Again qui publie La Discrétion chez Plomb. Alors on a parlé, Faiz Again, du premier exil de Yamina au Maroc pendant la guerre d'indépendance algérienne. Il y a aussi le deuxième exil, donc quand Yamina traverse la Méditerranée, on est en 1981, tout un symbole, à l'année en France de l'élection de François Mitterrand. Elle va rejoindre son mari qui travaille dur, hein, comme beaucoup de travailleurs d'origine maghrébine en France à cette époque-là. Il est ouvrier dans le bâtiment, donc elle va le rejoindre grâce au regroupement familial. Son mari s'appelle Brahim, et ils se rendent compte très vite qu'elle a le mal du pays, ce qui est assez fréquent, hein, lorsqu'on est en exil, surtout dans des circonstances qui ne sont pas forcément les meilleures. Et ça le rend extrêmement triste, Brahim, parce que Brahim, c'est vraiment un homme bon. Brahim, c'est un homme tranquille, et c'était pas forcément gagné, parce que ils étaient pas amoureux, Yamina et Brahim.
Oui, en effet, ils se sont pas choisis, comme beaucoup de parents à cette époque-là, et dans les conditions dans lesquelles ils se sont mariés, c'est-à-dire que le père rentre en Algérie pour trouver sa femme, et puis l'amène. Mais en même temps, il n'y a pas du tout l'idée d'un mariage dans la contrainte qui est absolument le jusqu'au bout, ce truc un peu pénible. Là, je voulais parler d'un amour qui se construit. Alors, dans la contrainte, parce qu'il y a cet exil et parce qu'elle le vit très très mal. D'ailleurs, même ça, souvent, on a du mal à imaginer que ces femmes ont vécu cette arrivée en France comme quelque chose de difficile. On a le sentiment que tous les gens qui émigrent le font pour aller chercher l'Eldorado, et que la vie en France est fantastique, mais pour elle quitte surtout son pays, sa famille, son père, ses frères et sœurs, pour aller vivre avec un quasi inconnu.
Oui. Et heureusement, donc, Brahim a du cœur, ouais. c'est un tendre, et pourtant, ça pourrait en choquer certains. Vous écrivez, Faiz Again, un homme de sa génération n'est pas supposé être doux et amoureux de sa femme. On pourrait presque se souvenir de votre roman précédent. Un homme, ça ne pleure pas, quoi. C'est une tare pour un homme, à cette époque-là, dans ce milieu-là, avec cette culture-là, d'être gentil, tendre et doux.
C'est surtout que il y a beaucoup cette question de la virilité dans le roman, par le prisme des filles et aussi personnage de la mère et du frère. En fait, le père, comme son fils d'ailleurs, finalement, il ne se conforme pas à l'idée qu'on a d'un homme arabe de cette génération. Mais j'ai envie de dire, aller voir du côté des films avec Jean Gabin et Lino Ventura, c'est
pas très différent.
C'est pas très différent. C'est vraiment une époque et une génération. Et sauf que j'ai l'impression que cette image de l'homme arabe est restée figée et que même la génération d'après souffre de ça, finalement, de cette image écrasante.
Alors la génération d'après, justement, il y a 4 enfants, hein, dans cette famille. Faiz Again, on a déjà évoqué Anna, qui est donc la fille cadette. Donc il y a 3 filles et 1 garçon. Les 3 filles, Brahim les appelle matin, midi et soir, ce qui est évidemment une très très jolie formule. Alors avant Anna, il y a l'aînée qui s'appelle Malika, et puis la benjamine, c'est Iman. Comment est-ce que vous avez composé ce trio féminin?
Ce qui m'intéressait dans les personnages des enfants, y compris Omar, c'est de montrer comment ils sont impactés chacun à leur façon par l'existence et la trajectoire des parents. Et donc, que ce soit Brahim ou Yamina, leur décision et la manière dont ils ont éduqué leurs enfants va fortement impacter les enfants. Et pour les filles, déjà, c'est compliqué d'avoir un père comme Brahim, parce que finalement, il met la barre tellement haut qu'elles n'arrivent pas à se caser, qu'elles trouvent que tous les mecs sont nuls.
Oui, il faut surtout pas décevoir le père.
Non, il faut pas décevoir le père. Et Malika, elle a été la première victime de ce que j'appelle la génération sans précédent. Sa génération à elle, donc elle a une quarantaine d'années, c'est la génération, première génération que les parents ont mariée. Donc ils ont essayé de faire comme ils ont pu. Je voulais être aussi indulgente avec eux, parce que c'est une génération, on a beaucoup entendu parler de cette histoire des mariages forcés dans les années 80. Il y avait toute une mode sur le ces filles qu'il fallait sauver à tout prix, etc. Et elle, finalement, elle a été mariée parce que les parents ont trouvé des règles alors un peu désuètes, qui venaient, qui sont à mi-chemin entre ce qu'on retient du village, du bled, et puis on essaie de faire avec ce qui se passe ici, et c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de précédent. C'est un peu inédit, et puis finalement le mariage ne fonctionne pas.
Mmh. Ça, vous n'êtes jamais dans le jugement, en fait, Faïza Ghen. Vous racontez, et puis après, à chaque lecteur, de se faire sa propre opinion, et de se sentir plus ou moins proche de tel ou tel personnage. Et parfois, d'ailleurs, on peut être proche à certains moments de l'un, et ensuite de l'autre. Hein. C'est pas du tout quelque chose de figé.
Mais pour moi, c'est extrêmement important. Mais justement, j'ai le privilège de pouvoir raconter ces histoires d'une manière familière, c'est-à-dire que ce sont des personnages qu'on connaît, que je connais, et donc je sais qu'à l'intérieur, si on va chercher un petit peu, c'est pas difficile de s'éloigner des clichés, en fait, avec un petit peu de bonne volonté, et même par le prisme de la fiction, je tenais vraiment à rendre justice à ces personnages.
Mais des personnages qui sont vraiment ancrés dans le quotidien. Il y a énormément de petites choses, des courses au marché, une petite balade, on sort le chien, enfin des petites choses comme ça qui nous arrivent à tous et qui finalement en disent extrêmement long sur la vie. C'est par la simplicité qu'on fait passer finalement les messages les plus forts.
Alors il y a deux choses. Moi je pense que ce qui est politique dans notre société, je trouve que il y a rien de mieux qui raconte le politique que l'intime. Et c'est par le prisme intime, et comme vous le dites, par des choses ordinaires, que je trouve que, en tout cas, on peut raconter et amener les gens finalement à se pencher un peu pour être plus proche de ces personnages et de ces situations-là. Et puis l'autre chose, c'est que la littérature, ça permet d'emmener en fait l'émotion qu'on peut ressentir de manière directe au lecteur sans s'embarrasser, parce que tout le monde dit tout le temps elle écrit de manière simple, elle écrit comme elle parle, mais moi je mets un soin énorme, très grand, en fait, à rendre le texte accessible, à le rendre simple, parce que je veux justement faire entrer mon lecteur sans que ce soit laborieux.
Et en même temps, pour faire passer ce message, vous donnez aussi aux mots une autre dimension en utilisant l'italique. C'est-à-dire que, ouais, voilà, vous écrivez dans une graphie différente, hein, l'impression évidemment, et tout de suite, des mots qui ont l'air extrêmement simples comme ça prennent tout de suite une force absolument incroyable. Vous écrivez directement en italique, c'est à la relecture que ça se passe. Comment est-ce que vous gérez cette dimension purement typographique, mais ouais, qui en dit aussi très très long sur les émotions et sur le message que vous faites passer?
Bah, je vais vous dire, je travaille un peu comme une musicienne autodidacte. Parce que je lis beaucoup mes textes à haute voix, et l'italique, souvent, ça correspond à une espèce d'écho, de résonance que ce mot a fait dans mon esprit au moment où je l'ai pensé, où je l'ai écrit. Et du coup, l'italique traduit ce sentiment-là, où je sens qu'il faut appuyer un peu. Juste un peu.
Alors, on parlait de quotidien à l'instant, une petite scène quotidienne, justement, ça se passe dans le salon familial. Nous sommes page 94, un extrait très court.
La dernière fois qu'on avait fait une minute de silence spontanée chez les Talib, c'était le 6 octobre 2001, le Black Day des Franco-Algériens de la génération des enfants de Yamina. Ce jour-là, un match amical avait dégénéré. Après avoir sifflé la Marseillaise, des supporters avaient fini par envahir le terrain. Ces quelques abrutis, torse nus, avaient gâché la fête dans la joie la plus absolue. C'est paradoxal de tout saboter sans violence, avec le sourire, juste parce qu'on est content d'être là, d'exister enfin. Brahim avait éteint la télévision au moment de l'intervention de Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports. Probablement le comble de la gêne. Omar se souvient qu'elle avait l'air d'une éducatrice spécialisée en train d'engueuler son groupe de réinsertion 14-16 ans. Elle a dû dire quelque chose du genre « C'est pas sympa, eh oh, ça suffit, allez, on se calme, soyez gentils, arrêtez ça les jeunes ou j'annule la sortie à Crobranche. » C'est tout juste si elle ne les a pas privés de choc à pic.
Bon, alors on sourit, on rit, et puis après on rit un petit peu jaune quand même, Faïza Ghen. Vous aussi, ce jour-là, vous avez éteint la télé comme Brahim ou pas du tout?
Alors moi, je vais vous dire, j'avais 15 ans et j'ai pleuré. Ça m'a rendu triste.
On siffle la Marseillaise?
Non, ça m'a rendu triste que ce match tourne mal, dans l'absolu, c'est-à-dire au-delà du fait qu'on ait sifflé la Marseillaise, que ce match soit interrompu, parce que c'est vrai que je pense, alors sans forcément le formuler, j'étais très jeune et tout, mais il y avait une promesse dans ce match, il y avait une promesse très forte de réconciliation, de reconnaissance. Il y avait quelque chose qui dépassait le sport, qui dépassait la symbolique du match de foot. Et je me rappelle très bien de ces visages joyeux. Donc c'était pas une intrusion sur le terrain agressive. Il y avait de la joie. Et on parle souvent du drapeau algérien, vous savez, de ces jeunes qui agitent le drapeau un peu dans toutes les circonstances. Mais je crois que ce qu'il faut y lire, c'est vraiment un désir d'appartenance et de reconnaissance.
Donc c'était une formidable occasion gâchée, quoi.
Absolument, ouais.
Alors il y a comme ça toute une série de scènes dans le livre. Il y en a une autre qui m'a aussi beaucoup frappé. Ça se passe à la mairie de Bobigny. Donc Bobigny, c'est toujours en Seine-Saint-Denis. C'est là que travaille Malika, qui est donc la sœur aînée d'Anna, la fille aînée de Brahim et de Yamina. Malika travaille à l'état civil. Et elle a été dénoncée par une de ses collègues parce qu'elle avait fait quelque chose pas conforme à la loi, pas conforme au droit en tout cas, pas conforme au règlement.
Au règlement, ouais.
Voilà, elle a fait plus exactement. Elle a fait quelque chose de terrible. Elle a parlé arabe dans l'exercice de ses fonctions. Donc
ouais.
C'est une violation caractérisée de la laïcité.
Oui, parce que ça devient ça, malheureusement. Et c'est vrai qu'en fait, dans la situation où elle accueille à l'état civil un vieillard qui se noie un peu dans son charabia, qui a du mal à s'exprimer en français, puisqu'elle, elle sait qu'elle peut se faire comprendre de lui en lui parlant arabe, elle décide d'enfreindre ce règlement et de lui tendre une main, finalement. Et puis, finalement, elle considère qu'elle n'a pas violé sa mission de service public, au contraire, qu'elle a plutôt facilité les choses à cet homme. Et finalement, ça pose un problème. Parce que justement, ce que je disais sur la division et sur le tout cette espèce de, comment dire, de menace du communautarisme, parce qu'en France, c'est un gros mot, le communautarisme, et aider un vieil homme à trouver ses mots, pour elle, ça lui semble naturel de le faire à ce moment-là.
Et vous êtes d'accord avec Anna quand elle dit si tu avais parlé anglais à un Américain, t'aurais eu une promotion ?
Moi, j'ai pas. En fait, je laisse le lecteur décider de ça. Je laisse le lecteur, voir où il se situe, comment il se sent par rapport à ça. Ce que je fais, c'est juste mettre des chemins. Après, c'est le lecteur qui décide.
Il y a un mot que vous venez d'employer, Faiz Aghan, c'est le mot communautarisme. Vous l'avez employé de vous-même. En ce moment, il y a un autre mot. Le président de la République, notamment, parle plutôt de séparatisme. Les mots sont évidemment quelque chose de fondamental, de très important dans le débat politique actuellement en France. Vous qui êtes aussi une femme de mots, à travers vos romans, il faut parler de communautarisme, il vaut mieux utiliser le terme de séparatisme.
Moi, j'ai choisi de ne pas employer, de pas tomber dans ce truc, je trouve, qui est racoleur. Spectaculaire.
C'est un faux débat.
Mais c'est absolument un faux débat.
Donc on peut employer l'un ou l'autre sans,
non, ce que je dis, en fait,
sans nuance.
Arrêtons de parler des séparatistes et des séparatismes. Parlons des séparateurs. Parce que en ce moment, je pense qu'on a autre chose, qu'on attend autre chose d'un président de la République que de cibler les pseudo-séparatismes. Moi, je trouve qu'il faudrait parler des séparateurs.
Et qui sont les séparateurs pour vous? Ces éditorialistes que vous
pas seulement, je pense qu'on a cruellement besoin de cohésion et on a cruellement besoin de se sentir appartenir et je crois que c'est vraiment dommage de pointer ces choses qui sont pas essentielles. Là, les gens ont besoin de se sentir en cohésion et de se sentir ensemble.
Voilà, là c'est exactement le débat dans lequel ce débat, sans mauvais jeu de mots, le personnage d'Imane, qui est la fille la plus jeune de la famille. Et Imane, comme vous l'écrivez, elle est trop indépendante pour certains, pas assez pour les autres. Ça veut dire quoi?
Ce que je disais tout à l'heure au sujet, vous savez, de la complexité. Je dis qu'il y a certaines personnes en France aujourd'hui qui ont donc des histoires qui viennent aussi de cette histoire de la colonisation, mais qui sont ici et qui ont les codes d'ici et qui ont été éduqués en France avec ces valeurs, qui ont épousé les valeurs républicaines depuis la plus tendre enfance. Donc en fait, on se sent trop compliqué. On se sent, on a du mal à comprendre comment on est perçu, comment on perçoit les autres. Et tout cet ensemble de choses qui sont caractérisées par le personnage d'Imane. En fait, pour moi, c'est une manière aussi de parler de la plus grosse injustice à mes yeux. C'est le refus de complexité. C'est-à-dire que on doit être binaire. Alors, soit on est pour ou contre, on est algérien ou français, on est ceci ou cela. Et ce personnage, en fait, c'est une manière de dire on peut être tous tout à la fois. Et en plus, on peut l'être d'une manière sereine.
Et donc, on peut soutenir la liberté d'expression sans être Charlie pour autant. C'est ce qu'est le cas d'Imane, en l'occurrence.
En l'occurrence.
Votre personnage.
Oui.
Elle est tout et son contraire.
Ouais.
Imane vit dans un monde qui n'est pas prêt à accueillir sa complexité, comme c'est difficile de vivre dans la France contemporaine, à vous lire Faizagad. Et puis il y a Omar. Alors Omar, on va quand même en dire un petit mot, c'est le seul garçon de la fratrie. Donc c'est un petit peu le chouchou, quoi. C'est un peu l'enfant roi. Il est extrêmement couvé par sa mère qui est très fière de lui. Et il est chauffeur Uber. Alors ils cherchent l'amour, hein, ce qui est assez normal. Là aussi on va pas tout raconter, mais Omar et Imane, ils sont à peu près de la même génération. Est-ce que ça change quelque chose qu'il soit un garçon, ou est-ce que Omar c'est simplement Imane au masculin?
Non, je pense que ça change beaucoup de choses qu'il soit un garçon qui se vit de manière différente, parce que justement j'écris à son sujet et pour parler de cet amour maternel qui sa mère qui le couve. Qui le surprotège, je dis à la maison, c'est un roi, mais dehors, voilà, il est sur un trône chez lui, mais dehors, il sera jamais roi. Il y a vraiment cet esprit-là. Il trouve pas sa place, Omar. Omar, il a des difficultés à se sentir homme, à se sentir important à l'extérieur de chez lui. Et là, justement, cette rencontre avec cette jeune femme, ça va lui permettre de se donner une contenance.
Voilà, et c'est vrai qu'on va pas tout raconter, mais on se rend compte d'ailleurs à travers le personnage d'Omar, mais aussi à travers le personnage d'Imane, que souvent quand on cherche l'amour, on a tendance à regarder autour de soi et à se concentrer finalement autour de sa communauté, quoi.
Alors pour le personnage d'Imane, je dirais que c'est plutôt l'inverse, parce que en fait, on se rend compte qu'elle a des histoires d'amour avec des garçons qui sont très différents d'elle, et que justement elle fait ce que j'appelle dans le roman le test du Sidari. Le Sidari, c'est la banquette traditionnelle plutôt marocaine qu'on met dans les salons chez certaines familles, et elle dit je fais le test du Sidari, c'est-à-dire j'imagine ce garçon avec qui je suis sur le Sidari, et automatiquement c'est l'échec, c'est-à-dire que le test ne fonctionne pas à 99% parce qu'il aurait rien à faire là, et parce que ça aussi ça fait partie de la complexité, parce que on vit tous ensemble, donc forcément dans les relations on reproduit pas forcément les attentes des parents, et parfois ça peut être délicat.
Merci beaucoup Faizagad de vous être assise dans le fauteuil de VMDN cette fois-ci, la discrétion.
50 ans, pas d'erreur, tout manger mon 4 heures, n'était pas surchargé mon dossier. Semblait pas étonné au pôle des abusés, les tournants de la vie, ils m'ont dit. Ils ont voulu transformer mes désirs en projets, mais le marché est bouché, c'est raté. Y a bien que le ménage qui est porteur à votre âge, y croyait-il vraiment, c'est troublant. Sur le quai d'Ouistreham, j'ai la blouse qui rend l'âme, je fais le ménage sur les flots et c'est moi qui prends l'eau. Sur le quai d'Ouistreham, j'ai la blouse qui rend l'âme, à la barre de mon chariot, je mène mon bateau. 3 jours de formation humaine, soumission, à coups de shampouineuse et de savon. Vous serez les chiffons des plus jolis salons, invisible présence sans nom. Partons à l'aventure des plus sombres patrons, jour d'essai non payé, baisse le front. À tout prix travailler, de quel droit refuser, courir les CDD enchaînés. Sur le quai d'Ouistreham, j'ai la blouse qui rend l'âme, je fais le ménage sur les flots et c'est moi qui prends l'eau. Sur le quai d'Ouistreham, j'ai la blouse qui rend l'âme, à la barre mon chariot me mène en bateau. Cabines comme des métronomes, fliquées par les matrones et les hommes. Les poudres détergentes sont nos douces amantes, on se laisse emporter, oublier.
Pas question de rester les bras croisés pour les artistes. Ainsi, comme chaque année, le cirque Alexis Grus, maintenant appelé les Folies Grus, a monté son chapiteau dans le bois de Boulogne, près de Paris. Alors que s'y passe-t-il en ces temps de crise sanitaire? Reportage au petit jour de Fanny Blechner.
L'entrée du chapiteau est vide. Vide la billetterie. Vide aussi l'espace de restauration, vide surtout les gradins. Mais sous les lumières artificielles, la piste prend vie. 10 immenses silhouettes sombres, de noirs frisons hollandais et de bruns chevaux portugais, trottinent à l'intérieur du cercle. En son centre, Alexandre Grus.
Avant de travailler, c'est important pour moi qu'il marche bien, ensuite trotter, ensuite galoper, c'est des deux côtés, des deux mains, c'est-à-dire des deux côtés, à droite et à gauche. Ouais, c'est très important, comme tout artiste ou tout sportif, de s'échauffer, c'est primordial. Je vais faire un petit peu galoper. On t'arrête, allez, doucement, Sirius. Allez, Orion, hop, 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 allez.
Les chevaux ne sont pas montés, c'est ce qu'on appelle un exercice de liberté. Derrière la salle de spectacle, sur l'autre piste, c'est Gangster qui répète. Gangster est l'exact inverse de ses confrères. Un mini Shetland blanc, à la frange insolente et au caractère bien trempé, Maude Grus le fait répéter.
Et lui, sa spécialité, c'est de se cabrer et valser en même temps sur ses postérieurs. Un exercice qu'il fait très très facilement parce qu'il est léger. Ça a quand même mis quelques années à enseigner cet exercice, mais maintenant vraiment c'est une facilité pour lui.
Crise sanitaire ou non, tous les jours c'est le même rituel sur la piste, exercice de liberté, de dressage, puis d'acrobatie se succèdent.
Ce confinement, il change pas nos habitudes au niveau du travail équestre, pas du tout, parce que de toute façon nos matinées sont rythmées par nos chevaux. Quoi qu'il se passe au niveau des spectacles, le travail reste le même pour les entretenir, pour leur garder le moral. Voilà, bien éveillé.
Il faut donc continuer à entraîner, à nourrir, loger, sortir les chevaux de la compagnie. Des artistes à part entière, explique Firmin Grus, le directeur de la compagnie.
Les 50 chevaux, ils ne sont pas intermittents du spectacle. Pourtant, ils demandent à travailler tous les jours. Moi, je ne peux pas m'arrêter. Bien sûr que dans l'idéal, on devrait dire on arrête de travailler pendant un an. Mais c'est impossible. Qu'est-ce que je veux dire, les chevaux? Il n'y a pas de boulot aujourd'hui.
Une aide exceptionnelle a toutefois été débloquée par le ministère de la Culture. Pour les employés à deux pattes, qu'ils soient artistes, qu'ils travaillent pour l'administration, la billetterie, la sécurité, qu'ils soient palefreniers ou techniciens, un système plus conventionnel a été mis en place.
Il y a le chômage partiel, heureusement, pour une grosse partie du personnel, parce qu'il y a 80 salariés qui travaillent dans l'entreprise. Les intermittents, pareil, sont indemnisés avec le chômage, mais on ne pourra pas tenir comme ça éternellement.
Car les artistes espéraient reprendre dès 7 mi-décembre pour tenter de rattraper une année très compliquée.
La période des fêtes représente 60% de notre chiffre d'affaires. Pour les spectateurs, les 15 jours de vacances sont les plus importants, bien sûr.
Forcément, Firmin Grus est déçu de ces décisions ministérielles.
La seule chose que je regrette, c'est que je pense que le spectacle vivant est un des endroits les plus sécurisés en matière de normes sanitaires. On ne touche rien. Il y a un grand volume d'air, un grand espace, les règles sanitaires y sont, les gens ne se restaurent pas, gardent le masque en permanence, il y a du gel hydroalcoolique à toutes les portes et à tous les croisements. Donc c'est vraiment un lieu où le risque est très très faible.
La compagnie est d'autant plus pressée de reprendre les représentations qu'elle a profité des derniers mois pour peaufiner son dernier spectacle.
Cette année, je ne pense pas qu'il y ait un point que l'on ait laissé au hasard. Tout a été travailler justement grâce à ce confinement et grâce à cette volonté aussi d'aller vers une forme de spectacle actuelle, une forme vraiment contemporaine.
Un spectacle donc à découvrir quand les conditions sanitaires le permettront. La compagnie Grus espère une réouverture au plus vite.
Reportage de Fanny Bleffner. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dans un instant, l'info sur RFI et vous m'en direz des nouvelles.
Partagez vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.